Il est 16h26, quoi que ce soit sur les routes. On surveille avec vous autres, 418-971-1021. Audrey.
Très au ralenti si vous êtes sur la capitale, direction Est en ce moment, entre Henri IV et Laurentienne, direction Ouest. Ça se passe entre Henri Bourassa et Laurentienne. Robert Bourassa, direction Nord, il y a des problèmes si vous êtes entre Charest et la capitale au moment où on se parle. Charest Est, justement, à la hauteur de Robert Bourassa, c'est assez difficile également. Si vous êtes sur Henri IV Nord, un bon ralentissement à prévoir entre Charest et la capitale en ce moment. C'est un ralentissement qui est assez inhabituel, d'ailleurs, là. Direction Sud, ça se passe de Charest au pont. Duplessis, direction Sud, c'est à partir de chemin Sainte-Foy que ça commence à ralentir jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Et pour ce qui est de la 20 direction ouest, c'est surtout entre la route du président Kennedy et Taniata que ça se passe, évidemment. S'il y a quoi que ce soit d'autre, c'est le 418-971-1021 texto.
En pleine guerre de tarifs internationales, en pleine incertitude politique, en pleine campagne électorale fédérale et à l'aube d'une campagne électorale municipale, on s'est dit que le timing était peut-être bon pour renouer avec un vieil ami. François Bourque est en studio. Salut, François.
Hey, salut tout le monde. Je voulais compléter peut-être le bulletin de circulation de Audrey. Oui. Oui. Il y a un ralentissement important à prévoir sur tous les projets d'infrastructure de la région de Québec.
Mon Dieu, en bon fait, point, c'est plus qu'un ralentissement, ce serait même un arrêt qui serait à prévoir.
Ouais. Congestion monstre. Comment ça va, François?
Hey, ça va très bien.
Suis-tu encore l'actualité activement?
Oui, peut-être. Tu sais, j'ai pas les deux mains dedans autant qu'à l'époque où j'écrivais dans le Soleil régulièrement, mais non, ça m'intéresse encore. Puis je parle encore des gens qui sont des acteurs de la vie de la Ville de Québec. Puis ça m'intéresse. On sort pas le journaliste de ce corps si facilement.
T'es-tu allé te promener au lancement du livre de Régis Labeaume hier?
Ben oui, je sais pas si j'étais au lancement du livre ou où j'assistais à un événement de campagne électorale, mais en tout cas, là, tout Québec était là.
Hein? Ah, ouais.
C'était assez, assez étonnant de voir tout le... Il y avait un côté très rassembleur à cet événement-là. Ça avait lieu au Diamant. Okay. Enfin, beaucoup d'anciens conseillers, de hauts fonctionnaires, mais d'acteurs de la vie de Québec qui étaient là. Il a invité tout le monde, sauf ceux qu'il n'a pas invités.
Okay. Est-ce que ça parlait beaucoup, ceux qui n'étaient pas là, justement?
Bien, il n'en a pas parlé, justement, mais c'était assez frappant. Moi, on m'a dit, je ne l'ai pas croisé, mais on m'a dit que la ministre André Laforêt, ministre des Affaires municipales, était passée le saluer au début de la soirée. Mais c'est tout. Autrement, il y avait des gens de toutes les couleurs politiques, des gens en campagne, anciens conseillers, ça, mais personne de la CAQ.
Ah, Julien Guilbeault
n'était pas là.
Ah,
ben, tiens. Ni Jonathan Julien, ni les autres élus de la CAQ.
Mystérieusement bon. Absent.
Ni M. Lehoulier, d'ailleurs.
Ah, ben tiens!
Non, ben c'est ça. En fait, en y réfléchissant un peu, la plupart des adversaires politiques de M. Labeaume n'était pas là. Mais le maire Marchand est passé faire son tour.
Puis, okay.
En fait, M. Marchand, M. Hamad étaient là presque jusqu'à la fin.
Tiens donc.
Il serre des mains. On sait qu'il va annoncer dimanche matin son entrée en scène.
C'est ça qu'il va annoncer?
Je sais pas, parce que s'il annonce pas ça, on est fourré en studio la semaine prochaine. Je sais pas de quoi est-ce qu'on va parler.
Mais il y avait aussi des candidats fédéraux. M. Blanchette, Yves-François Blanchette est passé faire son tour.
Fait que c'était comme l'événement mondain par excellence.
Ah ouais, vraiment, ça, vraiment.
Okay. Aller faire du réseautage, oui.
Ah non, mais tout le monde était là. Non, ça, en tout cas, moi, personnellement, je trouvais ça intéressant de renouer avec beaucoup de ces acteurs-là. Mais on sentit M. Blackburn, candidat à la direction du Parti
Blackburn
libéral,
était là
aussi. Donc, on ne sait pas si on était dans une campagne fédérale, municipale ou une course à la chefferie provinciale.
C'est comme si le lancement du livre était secondaire et que tout le monde était venu faire du réseautage, finalement.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû faire, effectivement, du
réseautage. L'as-tu commencé, le livre, François?
Oui, j'ai commencé. J'ai lu peut-être une centaine de pages.
Puis?
Ce matin, ben moi je trouve que ça se lit bien. Peut-être pas le lecteur qui en apprend le plus parce qu'évidemment je l'ai côtoyé, M. Labeaume. Et il y a des épisodes, moi j'aurais été curieux là, d'en apprendre plus. Exemple, là, comment il a fait son argent à l'époque, M. Labeaume, avec l'entreprise minière de Mazarin.
Ben, oui.
Il y avait eu à l'époque toutes sortes de rumeurs qui avaient couru sur ça. Ben, en fait, il l'a déjà raconté, ou on l'a déjà raconté, comment il avait utilisé le surplus, si je me souviens bien, le surplus du fonds de retraite des employés d'une mine. Il y avait, par un montage financier... imaginatif.
Out of the box!
Mais qui était légal, je pense, mais qui était imaginatif. Il avait réussi à financer l'achat d'une mine qui a ensuite revendu. C'est comme ça qu'il a fait son argent. Mais je pensais que ça aurait pu être l'occasion de le raconter plus, davantage, mais... Ben, peut-être aussi que c'est un peu pointu. C'est un livre qui s'adresse au grand public, les gens qui ont aimé côtoyer M. Labeaume. Peut-être que c'est un peu pointu. Là. C'est ma déformation
intime,
de journaliste.
Est-ce que c'est intime comme livre? Parce que moi,
Ce que j'aimerais, c'est en apprendre sur l'homme aussi à travers ça. Là.
Oui, au début du livre, enfin, je ne suis pas très avancé encore, mais oui, il raconte d'où il vient, sa famille un peu, les contrastes entre son milieu. Il vient d'un milieu très, très modeste. Comment il a fait son chemin, ses premiers contacts avec la vie politique, le poids d'une carrière comme la sienne sur la vie de famille, sur la vie de couple. Oui, il décrit un petit peu tout ça. Là. Il s'en excuse par moments. Il dit « Je sais que j'ai consacré beaucoup, trop d'énergie peut-être aux choses de la ville plutôt qu'à ma famille, mon couple et tout ça. » Donc, oui, il en parle assez ouvertement. Ouais.
Comment tu trouves la campagne électorale fédérale jusqu'à maintenant? C'est une campagne unique, hein, à cause du contexte, à cause de Trump, on se le cachera pas.
Oui, j'ai l'impression que ça, on n'apprendra rien à personne en répétant ça. C'est une campagne complètement atypique là, à tout point de vue. Effectivement, c'est comme une grande éclipse médiatique sur tous les autres sujets qui ne sont pas liés à Donald Trump.
C'est bizarre parce que dès qu'on dirait qu'il essaye de faire une campagne électorale normale, on perd à peu près tout notre intérêt. Puis dès que ça redevient Trump, les tarifs, avec Mark Carney qui débarque de la campagne pour devenir premier ministre, on dirait que ça redevient intéressant.
Oui, c'est ça. Mais déjà, dans une campagne fédérale de tout temps, c'est difficile de mettre en évidence des enjeux plus locaux. Hein?
Ouais. C'est le palier le plus loin.
À un autre niveau.
Hein?
Et puis, les enjeux locaux ont toujours eu de la place à faire leur chemin dans les campagnes fédérales, mais c'est encore plus vrai cette fois-ci. Même s'il y a évidemment un grand enjeu plus régional qui fait l'objet de cette campagne-là, c'est la question du tramway. D'un côté, les libéraux, en début de campagne, ont annoncé qu'ils consolidaient une somme qui avait déjà été annoncée. Évidemment, il en faudra plus si le projet va de l'avant et on veut le financer par le fédéral. Et les conservateurs ont continué à maintenir qu'eux, ils couperaient les vives à ce projet-là pour diriger l'argent ailleurs. Donc ça, il y a certainement un enjeu régional, mais qu'il y a de la misère à émerger. On a l'impression que c'est vraiment la peur, la gestion de Trump qui accapare l'attention de tous les partis, en fait. Il y a bien le bloc qui essaye de détourner la conversation.
Mais on le voit dans les chiffres, là, je veux dire, ça manque de traction là, pour le bloc québécois, puis c'est normal dans le contexte actuel.
Puis j'ai l'impression que même pour la population, on l'a vu dans les sondages, même les faux pas de Mark Carney par rapport au Québec n'ont eu aucune incidence sur sa popularité.
Dans une campagne électorale normale, probablement que ça lui aurait fait perdre des points.
Oui, alors que là, on a l'impression que de toute façon, on ne veut pas entendre parler de rien d'autre. C'est quoi le plan pour nous sortir de là sans qu'on ait trop de cicatrices puis que ça ne prenne pas des années avant de s'en remettre?
Oui, bien là, on a l'impression que tout le monde est en train d'improviser, d'essayer de se demander qu'est-ce qu'on peut faire si on ne veut pas se tirer dans le pied? Comment faire pression sur les États-Unis sans se tirer dans le pied nous-mêmes, sans nuire à nos citoyens, à nos entreprises, à nous? Puis de dire faut redéployer notre façon de faire de l'économie, d'exporter, d'acheter, ça s'improvise pas non plus.
Mais non.
On va se structurer autrement, on peut pas... Alors, les partis essaient d'improviser. Mais je dirais que le fait qu'il n'y a pas de place pour autre chose aussi, je pense que c'est amplifié par le fait que parlons des médias traditionnels, ils ont de moins en moins d'effectifs sur le terrain en général, donc de moins en moins de journalistes pour s'intéresser à d'autres choses que l'évident du jour, là, qui est souvent Trump. Les campagnes se passent de moins en moins dans les médias traditionnels, de plus en plus à travers des réseaux. Les réseaux sociaux, de sorte que ça aussi, ça fait en sorte qu'on parle moins d'enjeux autres que ce qui découle de Trump.
Mais parlons-en un petit peu, François. Laissons Poilievre puis Carney chicaner à Ottawa, puis regardons dans la région. Y a-tu des luttes, y a-tu des circonscriptions qui t'intéressent plus que d'autres, qui t'accrochent un peu?
Oui, bien, ce qu'on constate, là, d'abord à l'échelle nationale, puis ça se dément pas depuis le début de la campagne, y a une espèce de forte polarisation entre les libéraux et les conservateurs, puis il reste plus d'air pour personne d'autre. Alors le Bloc est en chute, et le NPD, il va disparaître ou à peu près.
Oui.
Et contrairement à la perception qu'on a, quand on regarde les chiffres, le Parti conservateur n'est pas en déclin au Canada. Le Parti conservateur continue de gagner des pourcentages de votes, mais les libéraux en ont gagné plus et plus vite.
Oui.
Ils ont récupéré, ils ont aspiré tous les votes du Bloc et tous les votes du NPD. En tout cas, si cette tendance-là se maintient, ça veut dire que les libéraux passent en avant et puis seraient majoritaires selon les dernières projections. Mais ce n'est pas parce que le Parti conservateur s'est effondré, c'est parce que que les libéraux ont aspiré tous les votes des autres.
On voit tout ça dans la région.
Et si ça se mesure, ouais. Ben c'est ça. Si cette tendance-là devait s'avérer dans la région de Québec, ben les deux circonscriptions détenues par le Bloc actuellement, donc c'est quoi? C'est Beauport. Elles ont changé de nom, hein, les circonscriptions, ouais. Cette année. Mais ça, c'est Beauport-Limoilou puis Montmorency-Charlevoix, qui sont détenues par le Bloc actuellement, mais le Bloc avait de petites majorités, relativement petites majorités. Alors, il suffit qu'ils en perdent un petit peu et puis que les libéraux ramassent les votes du Bloc et du ramassent les votes du Bloc et du NPD. Ça serait suffisant pour que les libéraux, ils seront peut-être les gagnants dans la région de Québec aussi. Ils pourraient se retrouver avec quatre députés. Ils en ont deux. Je pense qu'ils vont les garder, Lightbound, puis Duclos devrait les garder.
Actuellement, il y a des circonscriptions où on ne voit même pas encore qui sont les candidats qui n'ont pas été annoncés. C'est particulier parce que, tiens, on part voter dans 25 jours, très exactement. Ouais. Dans une dizaine de jours, on va tomber dans tout ce qui est le vote par anticipation. Puis encore aujourd'hui, il y a des gens qui nous écrivent en disant « Bien, moi, j'ai juste une personne qui se présente à date, juste d'un parti, puis c'est un candidat qui est sortant.
» Bien, je pense que dans toute élection fédéral, à tous les niveaux, mais je pense qu'au fédéral, c'est particulièrement vrai. C'est bête à dire, mais la personne du candidat ou de la candidate a finalement pas tant d'importance. Tu votes pour le chef, pour le parti, puis je pense même
mais
si on connaissait...
Ça dépend,
avant d'avoir une candidature qui sort de l'ordinaire.
Tu parles, par exemple, de Montmorency-Charlevoix, puis c'est Gabriel Hardy qui est pour les conservateurs, puis j'en jasais un peu avec Denis Puvéreau hors d'onde. En ce moment, mettons, Gabriel Hardy, par la personnalité qu'il a, attire beaucoup, beaucoup les regards, puis il est très, très, très présent. Système à circonscription...
Les conservateurs se sont quasiment chicanés entre eux
autres
aussi.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a une querelle intestine là, puis il y en a aussi sur la Rive-Sud.
Parce qu'on voulait amener de la jeunesse.
National a imposé... imposé une candidature alors que la machine, celle des militants sur le terrain, souhaitait une autre candidature. Est-ce que cette machine-là va être mobilisée autant? Je ne sais pas. Mais c'est possible qu'une candidature très, très forte bouscule un petit peu les choses. Mais historiquement, moi, ce que je me souviens d'avoir lu, c'est qu'on disait la personne d'un candidat ou d'une candidate, ça représente quoi? À peu près 5% du vote ou quelque chose de cet ordre-là. Donc,
c'était tellement illustré quand il y avait eu la vague orange à Québec.
Ouais.
On a appris à connaître les candidats au lendemain de l'élection parce qu'il y avait plein de candidats du NPD qui avaient été élus. On savait
même
pas c'était qui.
Même eux autres ne se connaissaient pas comme politiciens.
Je pense que même eux étaient un peu surpris, mais tu as raison, François, quand on arrive avec une élection comme ça, avec un mouvement, quand c'est très, très, très polarisé, ça se peut qu'effectivement, on ait peu d'intérêt à savoir c'est qui. L'important, c'est le parti.
Moi, c'est ça. Je pense que c'est bête à dire parce que, bon, sans dévaloriser personne, c'est quoi les... Bon, il y a M. Hardy, effectivement, dans cette circonscription dans l'Est. C'est qu'autrement, c'est quoi, dans Beauport, Limoilou, les libéraux présentent ce qui n'est pas une vedette, mais les journalistes le connaissent un peu, l'ancien...
L'ancien de la Chambre de commerce.
L'ancien de la Chambre de commerce. Bon, est-ce que c'est une candidature vedette? Mais peut-être, lui, ça va être... C'est pas tant le fait qu'il est connu un petit peu dans les milieux d'affaires. Mais il habite Lévis, soit dit en passant. C'est des fois un handicap, ça. Mais bon, de ne pas se présenter sur la bonne rive ou sur la même rive, mais il y en a qui y arrivent.
Je veux pas les faire vieillir, puis je veux pas qu'ils se fâchent après moi, mais je vais quand même les appeler les vieux bleus. Gérard Deltel, Monsieur Paulus, as-tu l'impression que c'est des candidatures qui sont menacées?
Ben, non, je pense pas qu'ils
soient menacées.
Non, ils sont pas menacés. Les conservateurs, comme je le disais tout à l'heure, ils sont pas en déclin. Ils ont peut-être moins de visibilité, mais ils sont pas en recul dans les intentions de vote. Puis à Québec, je ne vois pas pourquoi ils seraient en recul. Gérard Deltel, il y en est à un septième mandat peut-être, là, toute discipline confondue, on inclut le provincial.
C'est vrai, avec le provincial.
Je pense pas qu'il soit menacé. Gérard, c'est un gars de terrain, mais
le
voit. Pourtant, il est issu des médias traditionnels, lui, de la télé, mais... Moi, je le vois nulle part. Il n'est pas interviewé nulle part dans les médias traditionnels. Peut-être la faute des médias. Mais il est très présent sur X, par exemple.
Il est venu dans nos studios cette semaine.
Ben, c'est ça, mais il n'est pas... Moi, dans les journaux, les médias, je ne l'ai pas
c'est
vu.
Vrai.
Je pense que ça répète que les campagnes se déroulent pas de la même façon qu'avant, mais je crois pas que Gérard soit menacé. Mais cela dit, en passant, Gérard n'était pas un grand partisan de son chef. Hein.
Au départ, non, mais non.
Il était même très réticent à ça. On comprend qu'il s'est rallié, mais...
peut-être pour ça qu'il est plus tranquille.
Il est peut-être plus tranquille. Alors que M. Paulus, qui est un organisateur pour M. Poilievre, est plus clairement ou plus probablement, si jamais les conservateurs renversaient la la tendance et prenait le pouvoir. Puis probablement, c'est lui qu'on va retrouver en position de responsabilité pour la région de Québec. Mais M. Paulus aussi, il est dans le déni un petit peu dans certaines de ses déclarations. Il banalise les querelles intestines. Bon, c'est correct, ça, c'est de bonne guerre. Il nie même les sondages qui mettent les libéraux en avant. En tout cas, il le faisait il y a quelques jours. Là. Je ne sais pas s'il le répétera encore aujourd'hui, mais à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence aussi. Là.
Je pensais que c'était rien qu'à l'étage provincial qu'on niait l'évidence dans la région de Québec. Salutations à M. Jonathan Julien. Parlons de ça un peu, François, parce qu'on remarque, puis là, ça devient un sujet d'actualité qui est presque redondant, mais on a l'impression que le poids politique de la région de Québec a diminué. On a l'impression qu'on est devenu le mouton noir de la CAQ, littéralement. C'est-tu un problème avec le maire? C'est-tu un problème avec la région, avec les voteurs? C'est-tu juste que ce gouvernement-là s'est montréalisé? Mais là, on voit des projets se perdre. Puis je fais souvent référence à cette discussion nostalgique-là qu'on a eue dans un podcast avec Gérard Deltel, Sam Hamad et Agnès Maltais. Mais c'est trois politiciens qui ont représenté la région, qui étaient d'horizons différents et qui disaient, ben, quand on trouvait des enjeux sur lesquels on s'entendait pas tout le temps, mais tabarnouche, on était capable de travailler avec le maire, puis on travaillait à notre étage pour pousser ça par en haut. Et quelque chose qui ressortait beaucoup, qui nous ont dit, c'est quand t'es un politicien de la région de Québec, t'es pas un politicien de la région de Montréal. Puis il faut travailler en équipe, puis il faut travailler des fois par en dessous pour être capable de faire notre place. Y a-t-il un petit peu de cela aussi dans ce qu'on a sous la table présentement?
Bien, le déclin du poids politique de la région de Québec, je pense que ça ne commence pas évidemment avec cette campagne fédérale.
Non.
On le voit, ça se confirme dans cette campagne-là, mais non, c'était commencé bien avant. Puis c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'âge d'or où les trois amigos, là, comme on les appelait, souvent unissaient leur voix pour se battre pour la région de Québec. Puis Sam Hamad était à l'époque le ministre responsable de la région de Québec. Agnès Maltais l'a été aussi, mais M. Hamad a été sous Jean Charest, puis à cette époque-là, ben, Québec était dans les bonnes grâces. M. Labeaume était un maire très pesant.
C'était
très
le politicien le plus populaire au Québec.
Québec, c'est ça, tout niveau confondu. Alors, il était vraiment incontournable. Puis Jean Charest aimait bien la région de Québec aussi. De sorte qu'il y avait une conjoncture qui faisait en sorte que Québec a obtenu pendant un certain moment un peu ce qu'elle désirait. T'sais. Évidemment, ce contexte-là a changé.
Pourquoi?
Je ne sais pas à quoi ça tient. D'abord, à l'époque, il y avait un vacuum politique à Montréal. Lorsque M. Labeaume était le politicien le plus populaire à Montréal, c'était encore Gérald Tremblay. Donc, Montréal n'existait pas sur la scène politique. Alors, M. Labeaume a occupé tout l'espace et mis à être présent dans les médias montréalais, nationaux, partout.
Oui.
C'est ça. Donc, Québec est vraiment devenu incontournable, ce qui est moins vrai aujourd'hui. Montréal a repris un petit peu sa place, là, une place qui est normale pour une métropole.
Oui, mais je ne comprends pas qu'une vice-première ministre soit une élue de Québec puis ne sache pas représenter sa région. Je ne comprends pas que le ministre responsable de la région de Québec soit pas capable de faire valoir sa région auprès de sa collègue de travail.
Il nie même des évidences. François, pas plus tard que la semaine passée, il disait « Ah, les fonctionnaires, non seulement ils s'en iront pas de Saint-Roch, mais ils vont en avoir plus. » Puis dans la même semaine, on confirme dans le soleil le départ des fonctionnaires de la CNESST.
Comme s'ils ne recevaient plus les mémos.
Tout ça est vrai. Mais à l'époque de Sam Hamad, aussi, il a été organisateur pour Jean Charest.
Oui.
Il a été un militant de la première heure pour Jean Charest, puis ça, peut-être qu'un premier ministre s'en souvient. Et je pense que ce qui donne le poids aussi à une région ou à une personne, c'est ses relations, son réseau à l'intérieur même de son parti.
Là, clairement,
ça commence,
lui, il n'y a plus de relations. Il est en punition d'un coin, là.
Bien, c'est ça. Puis même Mme Guilbeault, si elle a le même comportement avec ses collègues ministres qu'avec son personnel, en fait, ce qu'on nous en raconte, j'imagine qu'elle ne doit pas avoir tant d'amis indéfectibles. Et ça, je pense, ça ne te donne pas tant de poids que ça quand vient le temps de discuter au Conseil des ministres. Il y a une conjoncture d'après-pandémie, une conjoncture économique qui fait que les finances, les libéraux avaient réussi à faire le ménage dans les finances. Ils en ont payé le prix aussi parce qu'ils ont commis ce qu'on a appelé de l'austérité dans le réseau, mais ils ont ramené les finances en bonne santé. Et là, c'est plus le cas. Donc, on n'a plus d'argent pour faire tous les projets. Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent, mais il y a certainement une faiblesse de leadership leadership dans la région de Québec. Le maire lui-même n'a pas le poids et la popularité que M. Labeaume a eu. On est à des années-lumière de ça.
Puis on dirait qu'il ne s'en est pas remis non plus. Le moment charnière pour moi, c'est quand il s'est fait retirer le projet de tramway puis que le gouvernement se l'est approprié. On dirait qu'à partir de là, il y a eu une cassure.
Ben, je sais pas. En termes de popularité, je ne sais pas si ça s'est mis à chuter. Je pense qu'il y a d'autres éléments. Il y a
dans la relation avec le gouvernement, plus qu'au niveau de la popularité. Oui,
le ton a changé. Ben, je pense qu'il y a peut-être eu une espèce de désillusion dans le cas de la mairie de Québec. Tu sais, on se souvient, quand il est arrivé, M. Marchand, il dit « Moi, je vais être un peu différent de M. Labeaume. Je vais essayer de travailler correctement avec le gouvernement de la CAQ. » Ce que M. Labeaume était plus capable de faire à la fin.
Ouais.
Et donc, il y avait une espèce de chance aux coureurs qui se sont donnés. Puis finalement, je pense que M. Marchand est arrivé à la même conclusion que pour son projet, pour ce projet de tramway, à tout le moins, le gouvernement lui faisait perdre son temps un petit peu. Alors, oui, ça s'est refroidi les relations. Je pense qu'il y a encore un canal qui fonctionne minimalement. Tu sais, c'est pas la guerre totale, frontale, totale, comme à l'époque de M. Labeaume, mais
disons qu'il n'y
a pas
la tombe
crochue.
Ouais, penses-tu que M. Hamad peut sauver la mise? Il va faire son annonce dimanche, on sait.
On entend son nom depuis tellement longtemps. On dirait qu'il y a plein de gens qui le voient comme étant voici la solution, celui qui va rétablir les liens avec le provincial, celui qui va reprendre en main la ville de Québec.
La théorie du sauveur, historiquement parlant, toute catégorie confondue, est lourde à porter.
Oui, c'est ça. Moi, je suis pas convaincu que ça puisse changer, là-dedans.
Mais qu'est-ce qui t'intrigue le plus dans la candidature que Sam Hamad va présenter?
Bien, il y a beaucoup de choses qui nous intriguent, à commencer par son programme, parce qu'on ne le connaît pas. Il nous dit, il nous a dit depuis le début, ce sera un programme économique, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit encore. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va soutenir plus d'entreprises? On veut baisser les taxes? Parfait. Tu coupes dans quel service? C'est beau. On peut être d'accord. On peut être d'accord de dire, je vais avoir un programme, donner une couleur économique à mon action politique. Ça va, mais il faut dire comment.
Je m'attends à beaucoup de concret, puis je place la barre très haute, parce qu'il y a eu le temps de se préparer. Il y a eu le temps de se bâtir un programme. Ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de cette candidature-là. Si on n'arrive pas avec des projets clairs et des objectifs clairs, moi, la semaine prochaine, je vais être très déçu.
Ouais. Mais la seule chose qui est connue pour l'instant, c'est il sera opposé au projet de tramway.
C'est ça.
Bon, donc, au départ, il y a un bassin de citoyens qui sont opposés au tramway. On le voit dans les sondages. Donc, il y a un potentiel là d'aller chercher beaucoup de votes. Ça, c'est certain.
Oui, mais il y a une chose entre s'opposer puis proposer quelque chose de constructif. Puis je pense que dans la région de Québec, on est rendu là. On est tanné d'avoir des projets qui sont constamment mis en opposition puis qui n'avancent pas. C'est quoi la solution qui est proposée? C'est bien beau de dire non. Mais quoi d'autre?
Bien, c'est ça. Est-ce qu'il va vouloir essayer à son tour de réinventer la roue? Parce que, tu sais, c'est ça. Les modes de transport, si on convient que Québec a besoin d'un mode de transport plus efficace, plus structurant, pour reprendre l'expression, bien, il n'y a pas 1000 possibilités. T'sais, le métro, on pense que c'est... Si on n'a pas les moyens d'un tramway ou
pour
un métro, et si on veut revenir à l'autobus, bon, il y a moyen de rendre un système d'autobus plus efficace. Je pense que, moi, personnellement, je pense qu'un tramway serait le meilleur modèle, mais si on voulait revenir avec les autobus, bien, faudrait, si on veut que ce soit un peu efficace, trouver des corridors où ils vont circuler de façon exclusive.
Mais ça, on n'en veut plus à CAQ.
Ça implique des aménagements pour les faire circuler à l'abri du trafic, une priorité totale au feu de circulation. Ça aussi, ça va bousculer les habitudes des automobilistes. Alors, quand on va arriver dans le commun, il y a des gens qui vont être mécontents. Ils vont dire aussi, ça me dérange. Donc, c'est pas magique non plus, l'autobus. Alors, Et sur le reste, il faudra l'entendre. Est-ce que M. Hamad a une idée sur comment réduire l'itinérance? Comment réduire la crise de logement? Bon, on va entendre tout ça. Puis M. Hamad, il va devoir se battre aussi avec son passé. Il va falloir...
Ouais.
Il n'est pas parti dans des circonstances glorieuses à l'époque. Il n'a pas commis d'actes.
Il avait gagné la faveur populaire de Québec parce que les médias montréalais étaient beaucoup contre lui. Ça l'aide.
Non, mais il y a des...
C'est pas garanti non plus.
Il y a des gens qui s'en rappellent. À chaque fois qu'on parle de Sam Hamad, on a toujours des textos, effectivement.
Puis vous, sur les adversaires qui vont... Les adversaires politiques vont le rappeler aussi. Donc, M. Hamad, à date, ce dont il profite, c'est de sa grande notoriété.
Oui.
Pour le meilleur et pour le pire, peut-être. Et souvent, les sondages qui sont longtemps avant les élections, ça mesure plus la notoriété que la véritable intention de voter pour l'un ou l'autre.
Peut-être que le fantôme de Sam Hamad va être plus fort d'un sondage que le vrai Sam Hamad, mais au moins, là, la POC va être sur la glace puis ça va commencer à jouer. As-tu l'impression, François, que la... campagne électorale municipale va devenir un peu comme celle au fédéral, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. À partir du moment où tu as Sam Ahmad puis que tu as le maire Marchand, je pense que les autres vont avoir de la misère à sortir la tête de l'eau. Là.
Est-ce que l'élection va se polariser autour du tramway ou ça va être autre chose? Ouais. Parce que moi, ça fait un petit bout de temps que je me demande, avec le poids que Trump occupe dans nos vies ou dans l'actualité, est-ce que les citoyens de Québec vont se poser la question qui est le meilleur maire pour représenter Québec dans un contexte comme celui-là? Alors, qui sur la scène internationale ou ailleurs pour tisser des alliances avec d'autres partenaires possibles qu'aux États-Unis? Est-ce qu'on pense que M. Marchand serait un meilleur représentant que M. Ahmad ou M. Villeneuve?
C'est quoi leur vision
demain? Alors, est-ce que la question de l'urne, ça va être vraiment le tramway ou ça va être comme ça donne l'impression de l'être au fédéral, qui est la meilleure personne pour nous représenter compte tenu du contexte qui se dessine? Ça, c'est une inconnue. Et là, les tarifs de Trump, on les connaît mieux aujourd'hui. Peut-être demain, ça va être autre chose, mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins pire que ce qu'on croyait. Si effectivement c'est ça, est-ce que ça veut dire que l'espèce de focus que tout le monde a mis, adversaire et média, là-dessus, est-ce qu'il va s'estomper un petit peu, puis d'autres enjeux vont pouvoir émerger? Si on s'aperçoit, bon, OK. Et surtout que les libéraux et les conservateurs finissent par avoir un programme qui se ressemble peut-être
beaucoup,
plus
oui.
qu'on pensait, en tout cas plus que ce que c'était au début de la campagne.
Ah oui.
Et là, aujourd'hui, je pense que mesurer la réaction à Trump, ça, ils sont pas fondamentalement en désaccord, les libéraux et les conservateurs. Alors, peut-être que d'autres, ça va faire de la place à d'autres enjeux. Peut-être qu'on va être obligé de se reparler de tout ça.
Écoute, une chose est sûre, c'est que ce sera pas inintéressant là, à quelque étage que ce soit. Puis François, c'est un plaisir de te retrouver, tabarnouche.
Le plaisir est partagé, je vous l'assure.
On reprend ça, ce jasette-là. François Bourque, il est 16h52 pour jaser de l'actualité. Grosse semaine à la semaine prochaine dans le retour. C'est toujours confirmé, Audrey. J'aime pas ça, caler les shots d'avance.
Il n'y a rien qui a bougé. Okay. Lundi, 16h, Sam Ahmad est avec nous. Puis jeudi, 16h, le maire Marchand est avec nous.
OK. Fait qu'on va faire comme un débat interposé.
Exact.
Tout ce qu'on va pitcher sur Sam Ahmad lundi, on va leur pitcher sur le maire Marchand.
Mais ça va être
jeudi.
Intéressant.
Oui. Oui, c'est ça. Ben, je l'ai croisé hier, M. Ahmad. Bon, on n'a pas eu une longue conversation.
Non?
Je ne sais pas si je me permets de vous dire ce qu'il m'a dit.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Ça tenait à 3 ou 4 mots. En me croisant, on s'était rendu... Il m'a tendu la main et m'a dit « Arrête de parler en mal de moi. » Je dis « Moi, mais j'ai plus de chronique.
J'écris plus nulle part. »
Il va entendre aujourd'hui, il va dire « Il a encore parlé en mal de moi. » C'est pas ça.
Je ne parle pas qu'en mal de M. Ahmad. J'essaie d'être fair, de faire valoir.
On a le droit d'être
c'est
critique.
C'est quoi ses acquis?
Ben oui.
C'est quoi son talent? Puis c'est quoi? C'est limite.
C'est ça, devenir maire, M. Ahmad. Il y a plein de monde qui vont parler en mal de vous.
Mais je pense qu'il n'a jamais aimé ça, la critique. Il va falloir peut-être qu'il s'habitue.
Peut-être.
S'il se relance en campagne.
Effectivement. Merci, François. Il est 16h53. Courte pause. On revient.
Gravel.
Boulevard.
Le retour.
102.1. Gravel dans le